Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public à Deauville, au théâtre du Casino Barrière, à l'occasion du 42e festival du cinéma américain avec la bannière étoilée de la critique, j'ai nommé Daniel Eman, de Marianne qui préside ici le jury de la critique, avec Xavier Le Herpeur de 7e Obsession, Pierrot, Pierre Murat de Télérama, Eric Nohoff du Figaro, qui lui fait partie du jury littéraire de ce festival dont le prix a été décerné cette année à Stewart Onan pour Dernier Feu sur Sunset aux éditions de l'Olivier. J'espère que c'est un bon roman.
C'est un très très bon roman qui relate les derniers jours de Fitzgerald à Hollywood et c'est vraiment un livre déchirant où on se met complètement dans la tête d'un écrivain, d'un scénariste, d'un père et d'un mari au bout du rouleau et c'est un des plus beaux livres de la rentrée.
Un festival de Deauville créé, je le rappelle, il y a 40 ans qui a vu défiler toutes les stars américaines dont les noms rythment les célèbres planches de la ville. Dirigé aujourd'hui par le très cinéphile Philippe Augier. Au programme cette année, les nouveaux films de Michael Moore, de Todd Solondz, Brad Furman, Todd Phillips, des hommages à Stanley Tucci, James Franco, un jury présidé par l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, et un masque et la plume dans ce ravissant théâtre, je le disais, à l'italienne du Casino. Imaginez quand même, mes enfants, que sur cette scène, il y a un siècle, Nijinsky dansait dans le spectre de la rose, mise en scène par Diaghilev. J'en vois pas un ici à cette tribune capable de rivaliser.
Pourtant, il y en a un qui y était.
Non, il n'est pas là ce soir, Michel Simon.
C'est gentil.
Bon, mais le masque et la plume n'étant pas, vous le savez, seulement diffusé dans le pays d'Auge, nous allons parler ce soir des sorties de la quinzaine, j'ai nommé évidemment Alain Giraudy pour Rester Vertical, Philippe Lioret pour Le Fils de Jean, Bertrand Bonello pour le très discuté Nocturama, Pascal Chomeil et son petit boulot, Ouda Benyamina pour Divine, et puis comme on est à Deauville et au Festival américain, j'ai inscrit deux films dont je vous laisserai dire très franchement ce que vous en pensez, c'est le First Date de Richard Ten. Sur les époux Obama et le Dennis Gansel Mécanique Résurrection. D'ailleurs, ce festival qui commence tout juste, ça va durer une dizaine de jours. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu des films qui vont être diffusés, projetés ici, Daniel?
Oui. Le film d'ouverture, vendredi
c'est
soir.
C'est bien, t'as vu le film d'ouverture?
Oui,
c'est
bien. Oui, comme j'étais arrivée, je pensais que c'était une bonne idée.
Voilà. Infiltrator.
Oui, Infiltrator. Et de Brad Furman.
Et t'as aimé?
Beaucoup. Beaucoup, voilà, c'est l'histoire inspirée de faits réels. Et le héros assez courageux de cette histoire est présent à Deauville. Il s'est pas fait flinguer, on se demande vraiment comment. Et il infiltre tout simplement le cartel de Medellin et il va jusqu'à Pablo Escobar. Il se fait passer pour un grand banquier qui peut financer, laver tout l'argent sale et Dieu sait. Et on s'aperçoit qu'il y a une collusion avec le gouvernement américain. Enfin, tout ça, les choses sont très dites et très montrées. Et c'est un film qui est...
Un peu long peut-être, non?
Oui, deux heures, c'est non, ça va, et qui a vraiment un côté crade et puissant et voilà,
bon,
c'est le.
Donc tu as aimé.
Ah oui, c'est Xavier... Bryan Cranston, le héros de Breaking Bad, qui est le héros et vraiment c'est pas mal du tout.
Mon petit Xavier.
Dans la programmation, moi j'ai deux coups de cœur, Brooklyn Village, le nouveau film d'Ira Zax, qui avait réalisé, qui faisait Lights
qui
On,
qui sort dans 15 jours.
Et, absolument, qui sort le 21
septembre. Je l'ai inscrit au masque.
Et
dans,
tu as bien fait parce
jours.
Que c'est une vraie petite merveille que j'avais vue au Festival de Berlin. L'amitié entre deux garçons sur fond de voilà de petites critiques, mais à la manière d'Ira Zax, c'est-à-dire à la fois lucide et pas cynique de la boboïsation de New York actuelle. Ça filme plein de délicatesse.
Et émouvant.
Et émouvant. Et l'autre, c'est Transfiguration, qu'on avait vu à Cannes à un certain regard, qui est une variation sur le thème du vampire à travers le destin d'un petit garçon black qui habite New York et qui est convaincu d'être un vampire, mais comme il le dit, pas un vampire des films de maintenant, de Twilight. Mmh. Non, le vampire de Nosferatu, de Murnau.
Le vrai,
donc,
le pur.
Voilà, le gamin qui a déjà aussi de la culture. Et c'est un film très joli sur les affres de l'adolescence. Et c'est Michael Oshie.
Mais ça, tu connais les affres de l'adolescence.
J'en suis à peine sorti.
Oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça, Pierrot.
Ah, moi j'aime bien un film de Todd Solondz qui s'appelle Le Teckel.
Ouais, c'est pas pour moi ça.
Alors c'est pas du tout un film pour Daniel parce que
c'est un vrai teckel.
Non, ne raconte pas la fin.
Je raconte pas la fin. Je raconte pas la fin, mais c'est pas pour Daniel, donc peut-être que ceux qui connaissent Daniel comprendront. Et c'est l'histoire d'un chien, un teckel, qui va de famille en famille comme ça.
Pourquoi il est abandonné?
Oui, il est abandonné, puis il est malade, donc voilà.
Arrêtez.
Et donc ça permet à Todd Solondz de faire, qui est un cinéaste, un des cinéastes indépendants américains les plus féroces, de faire un portrait comme il sait le faire au vitriol de la société américaine. C'est pas très gentil, mais c'est assez jubilatoire.
Éric.
Bah d'abord, il faut rappeler que le Festival de Deauville a une grande qualité, c'est qu'il n'y a aucun film français. Alors c'est déjà pas mal.
C'est malin.
C'est facile, mais c'est vrai.
C'est malin.
Et je conseillerais le film de clôture qui s'appelle War Dogs de Todd Phillips, qui est encore inspiré d'une histoire vraie.
Encore avec des chiens?
Non, mais avec deux gars qui ont du chien, deux types de 20 ans, qui se sont institués trafiquants d'armes et qui ont réussi à vendre au Pentagone des centaines de millions de dollars en arsenal de toutes sortes pour l'armée. Non, mais c'est tordant, un mélange des Affranchis et du Loup de Wall Street.
Et tous ces films sont en compétition, j'imagine. Oui. Voilà. Et à la fin, donc, Madame Mayman donne son prix.
Absolument.
À l'un d'eux. Bon, allez, on commence avec un film français sorti cette semaine, je crois. Oui, le Nocturama de Bertrand Bonello, le cinéaste de l'Apollonie des Deux Saint-Laurent, avec Finnegan Oldfield, Vincent Rottier, Hamza Mediani et même Louis Rego, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Film de 2h10 qui a mis du temps avant de sortir. Et qui suscite, en tout cas chez certains, un peu de malaise, même s'il a été, il faut le rappeler, écrit juste avant la tuerie de Charlie Hebdo, ce film qui devait s'appeler à l'origine « Paris est une fête », titre du livre de Hemingway devenu l'emblème de l'après 13 novembre, eh bien ce film décrit une réalité qu'on a du mal à regarder sans arrière-pensée, puisque Bonello filme une bande de jeunes terroristes anticapitalistes d'origine et de milieux divers qui commettent à Paris une série d'attentats. Ils font exploser des voitures place de la Bourse, ils assassinent le patron d'une banque, ils attaquent la Défense, le ministère de l'Intérieur, j'en passe. Et ils finissent par se retrancher dans un grand magasin qui est pris d'assaut par les forces de l'ordre. Alors, il faut aussi le préciser, pas question ici de djihadisme, mais enfin, la folie destructrice est bien là, doublée, et ça peut prêter à discussion d'une condamnation à la fin, de la répression exercée évidemment par le GIGN. Pierrot, toi tu es cette semaine dans Télérama, tu es monté...
Enfin, tout le journal. Enfin, oui, moi, j'ai pas écrit. Oui, moi, je trouve que c'est un film absolument sublime. C'est peut-être le plus beau film français de l'année. C'est un film.
Tu dis ça au mois de déjà au mois de septembre.
Bah, c'est peut-être, probablement, je pense, en tout cas, le film qui, pour moi, un des 3-4 films qui est le plus marquant depuis le début de l'année, et c'est peut-être le plus beau film de l'année, parce que c'est pas du
mais
tout.
Mais pas 2016, hein.
Bon. Vas-y Pierre, vas-y.
Non mais c'est un film qui n'est pas du tout ce, enfin qui n'est pas totalement.
Qui n'est pas ce que je viens de raconter.
Non, si, tu l'as très bien raconté parce que tu l'as raconté avec beaucoup de calme
et d'impartialité. Tu as remarqué.
Et d'impartialité, absolument. Mais c'est un film qui est pratiquement un film en deux actes, c'est-à-dire le premier est un polar, c'est-à-dire qu'on voit des jeunes gens. En effet, comme tu l'as dit, d'origines diverses, qui se sont connues sans que l'on sache vraiment pourquoi. On ne connaît pas le passé, on les voit juste comme dans un thriller à l'américaine, passer à l'action et de façon extrêmement mystérieuse. Et on s'aperçoit que ces jeunes gens qui ne sont en effet ni condamnés ni exaltés représentent exactement ce que peut devenir la jeunesse en France. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont plus aucun idéal et qui considère à tort ou à raison que la société est défaillante. Et dans la deuxième partie, après avoir commis ce qu'ils ont commis, ils se réfugient contre toute logique. Donc évidemment que c'est pas du tout un film réaliste. Contre toute logique, ils se réfugient dans un grand magasin où ils sont confrontés.
L'attaque de la fin est très, très réaliste.
Oui, mais ils sont confrontés. Oui, mais avec une des musiques totalement amicalement vôtre, enfin complètement spectaculaire, lyrique, d'opéra. et ils sont confrontés, c'est génial, à leur vide à eux. C'est-à-dire que autour d'eux, il y a, vous savez, comme dans les grands magasins, le luxe, il y a toutes les marques Chanel, Dior, Saint-Laurent, et ils sont en train, contre leur gré, ces petits êtres qui sont des anarchistes, ils comprennent, enfin, ils sont contraints d'accepter ce monde qu'ils refusent. Alors, ils déjeunent, ils dînent, ils empruntent des vestes, etc., dans l'attente de quelque chose. Donc, c'est un film qui devient absolument un suspense, et j'ai tendance à dire...
Ça sera ton mot de la fin.
Oui, ceux qui n'aiment pas le film, c'est... ou qui craignent le film, ne voient pas le film. C'est un film absolument prophétique. C'est comme si on cassait le thermomètre parce que la société est malade. C'est comme avant, on tuait le messager qui annonce de mauvaises nouvelles. Eh bien oui, il annonce une mauvaise nouvelle, mais il faut le voir justement pour ça, pour le comprendre. C'est un film sublime.
Eric.
Ah, mais c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre d'ineptie, oui. C'est vraiment comme si on cassait le thermomètre, mais au mauvais moment, aller voir ce film. C'est d'une niaiserie, mais sans fond. C'est, on dirait du Enid Blyton. Il y a toute une bande de gourdiflots qui décident de mettre Paris à feu et à sang.
T'aimes bien le mot gourdiflot ou gourdiflot, j'ai remarqué.
Oui, j'aime bien, mais ça représente bien ce qu'ils sont. C'est vraiment le clan des sept, hein, si j'ai bien compté. Ils sont ce chiffre-là. Ils incendient des voitures, ils mettent le feu à la statue de Jeanne d'Arc. Et puis, on ne sait pas pourquoi ils font ça. Le début est interminable. Il y a des espèces de rendez-vous dans le métro. Alors, quand on compare ce que faisait Friedkin dans French Connection, c'est terrible de voir la différence. Et puis, c'est le genre de film où quand vous donnez rendez-vous dans un wagon de métro, il y a toujours une place en face libre pour s'asseoir. Tout est comme ça. Et la partie dans le grand magasin, qu'est-ce qu'ils vont foutre là-dedans? Oh, c'est complètement absurde. Alors, ils écoutent des musiques complètement stupides, ils mangent, ils invitent le malheureux Louis Rego qui joue un clochard. Alors, ils se retrouvent dans ce film et on voit dans son regard le malheureux qui regrette l'époque des Charlots-Fonds l'Espagne, des Bidas en folie.
Il a tort, vraiment. Attends.
Et Bonello a sans doute décidé un truc, c'est de trouver la scène la plus ridicule du cinéma français périodiquement. Il y a déjà eu dans La Polonide la fameuse séquence...
Alors, c'est un beau film, La Polonide.
Ridicule aussi. Oh. Des larmes de sperme de la prostituée. Alors là, c'est moins pathétique, mais il y a une séquence qui dure tout le temps de la chanson My Way en playback, avec un type qui descend un escalier avec une perruque et du rouge
formidable,
à lèvres.
Formidable séquence.
Hallucinant de bêtises et d'inintérêt. Et si Sinatra était vivant, je suis sûr qu'il aurait payé un mafieux pour aller casser les rotules de Bonello et il aurait eu raison. Ah non, moi je trouve qu'en plus ces terroristes sont nuls parce qu'ils n'ont même pas réussi à mettre Paris en émoi. Non,
c'est ce qu'on appelle des avis divergents. Daniel.
Première demi-heure, j'étais absolument enchantée. Je trouve c'est une demi-heure de film sonore et pratiquement pas parlant. Effectivement, avec Paris, filmé comme je ne l'ai pratiquement jamais vu, de beauté, de vérité, quasiment documentaire. C'est très mystérieux. On voit effectivement ces jeunes gens qui marchent, qui vont dans un but qu'on ne comprend pas. La statue de Jeanne d'Arc, il y a une jeune fille qui débarbouille la statue de Jeanne d'Arc montée dans un élévateur rouge. C'est d'une beauté absolument fracassante. Je dis, mais c'est magnifique. Bon. Alors, qu'est-ce que font ces jeunes gens? Alors, effectivement, après, on comprend ce que font ces jeunes gens. On ne comprend pas pourquoi, eux non plus. Et puis, tout à coup, venant de nulle part, intervention brève et molle d'Adèle Haenel, qui dit « Ouais, faut que ça pète, ça va péter. Ah ouais, eh ben ça pète. » Et à ce moment-là, ça pète. Bon.
Non, ça a pété.
Ça a pété. Bon, alors pas mal, effets spéciaux pas mal, ministère de l'Intérieur, poum, poum, oui, pas mal, pas mal. Et là déjà, on se dit, mais oui, d'accord, il n'y a plus d'idéal, oui, cette jeunesse est perdue, oui, il y a un jeune homme, oh, il est à Sciences Po, et ben même quand on est à Sciences Po, on peut être révolté. Bon, et puis effectivement, grand magasin... filmage magnifique, je veux dire, vraiment, je trouve que ça mettait en scène d'une brillantissime.
Parce que, encore une fois, la Polonide avait bien
montré.
Mais
bien sûr, et Saint-Laurent également.
Et Saint-Laurent.
Et donc, là, société de consommation, et oui, on consomme, mais c'est pas si drôle que ça de consommer. Ça devient incroyablement lourd, et je suis désolée, intervention du GIGN, les hommes en noir qui rentrent.
Les méchants.
Et oui, et bon, et la fin est inéluctable, ok. Mais excusez-moi, Le hors-champ, ça existe au cinéma. Et les jeunes gens, dans leur flaque de sang, oui, je raconte la fin, oui, je raconte la fin. C'est insupportable. C'est pour moi insupportable.
Mais faut pas raconter la fin, malgré tout.
Enfin, bon, c'est inéluctable, donc c'est pas un secret. Voilà. Donc, voilà, je suis... Et puis, en plus...
Elle fait bien, Pierre Murat.
Quand c'est elle, on pardonne. Quand c'est moi, on pardonne pas.
Je persiste et je signe. Et en plus, la collusion de ce film avec l'actualité, ce qui n'est pas la faute de Bonello, est quand même vraiment asphyxiante. Voilà.
Xavier.
Oui, parce qu'on peut quand même rappeler, comme tu l'as dit, mais que le film non seulement a été écrit avant, mais bien avant, puisque le film a été écrit juste avant qu'il ne commence les prises de vue de la Polonie. Donc c'est un scénario qui a 5 ans, et que d'après Bertrand Bonello, mais je n'ai pas de raison de contredire sa parole, il a peu changé. Donc c'est un film un peu intemporel, même s'il tombe effectivement mal par rapport à une actualité, mais c'est un film qui réfléchit de façon romanesque, de façon idéalisée, de façon abstraite. D'une certaine manière, à l'exaltation romanesque d'une jeunesse qui n'a plus aucune illusion, aucun idéal. Ça s'est vu au 19e siècle, ça s'est vu au 18e siècle. Je veux dire, je ne vois pas à quel moment il prend parti.
Mais ça, c'est pas un scoop, tu vois.
Mais non, mais c'est pas un scoop, on est bien d'accord. Non, mais je veux dire que le film n'est pas un film d'actualité politique. C'est un film qui réfléchit sur la jeunesse, dans une dimension qui est à la fois effectivement très réaliste dans la première partie et totalement surréaliste dans la deuxième. C'est un film magistral en termes de mise en scène. Effectivement, il n'est pas dans le politique parce qu'il ne prend pas parti, il ne parle pas de déterminisme social. Et tant mieux, parce que ça aurait été une impasse immédiatement. Le scénario est extrêmement intelligent. Je suis désolé, moi, la fin, je la veux frontale, je la veux à ce niveau-là, parce que c'est aussi un vrai problème de déni de justice. Et s'il y a une question à se poser, c'est à ce moment-là justement qu'elle s'insère dans le film. Je veux dire, je suis comme Pierre, il faut absolument que les gens aillent voir ce film, il ne faut pas qu'il fasse de faire de collusion. C'est un film tellement brillant en termes de mise en scène, tellement subtil en termes de scénario, tellement intelligent. Formellement, c'est absolument sublime. Enfin, je sais pas. Voilà, moi, je suis comme Pierre, je trouve que c'est un des grands films de l'année. Je trouve que c'est un film indispensable à découvrir. Bien sûr, les gens ne sont pas obligés d'apprécier, mais d'abord, quand on a ce point atteint une virtuosité de mise en scène et en même temps qu'on arrive à traiter d'un sujet sans mettre les pieds dans le plat, eh ben je suis désolé, mais pour moi c'est une immense réussite.
Nocturama de Bertrand Bonello, est-ce qu'il y aurait des réactions dans le public sur ce film? Non, je rappelle que nous sommes dans le théâtre du Casino Barrière à l'occasion du 42e festival du cinéma américain de Deauville. Si je vous dis Tadu Clito, mec, vous pensez évidemment Divine, le premier film de la française d'origine marocaine, Ouda Benyamina, qui était présenté à Cannes, c'était je crois la quinzaine des réalisateurs, et qui a reçu le prix de la caméra d'or, qui a été ovationné par une grande partie de la critique, qui nous a valu un discours en direct, on était nous, en tout cas pour le masque et la plume en direct du festival de Cannes, qui nous a valu un discours de la réalisatrice qu'on a eu du mal à couper à l'antenne, d'ailleurs on n'a pas pu le faire, n'est-ce pas Didier Lagarde, un film d'1h45, dont l'héroïne est Dounia, c'est Oulaya Amamra, une fille de la banlieue parisienne qui abandonne à 15 ans son lycée professionnel, qui propose ses services à une dealeuse et qui rencontre un danseur, c'est dit Ouda Benyamina, c'est l'éducation sentimentale de Dounia, partagée entre l'appât du gain et ses émotions, une tragédie qui ose le rire, un hymne à l'amour et à l'amitié, une réflexion sur l'universalité du politique et du sacré dans notre société. Fermez les guillemets, une logorée d'ailleurs qu'on retrouve dans ce film qui est plein d'énergie, ça on peut pas lui retirer, un peu parfois épuisant, parfois aussi un peu répétitif, d'autant que la caméra est parfois aussi un peu atteinte de Parkinson. Dans le genre, moi c'est vrai j'ai une petite préférence pour Bande de filles de Céline Sciamma, mais ça ne regarde que moi. Eric,
après le discours de la fille à Cannes, on est plutôt agréablement surpris parce que c'est moins hystérique que tout ce qu'elle racontait, c'est un petit peu moins long, mais c'est quand même un premier
1h45.
Film qui manque beaucoup de promesses, hein. C'est la collection Harlequin dans le 9-3, hein. C'est quand même une histoire d'amour ridicule entre une dealeuse et un type qui fait de la danse moderne et qu'elle va regarder par le trou de la serrure du haut des cintres. C'est quand même d'une cucuterie terrible tout ça. Et tu as raison, la caméra, Lelouch aurait fait ça, tout le monde lui aurait craché dessus, mais les flashbacks, les ralentis, la caméra qui tournicote autour des héroïnes, c'est très fatigant. et ce que ça raconte.
Il n'y a pas de scène sur la plage de Deauville, d'ailleurs. Il faut
préciser, non, non. Mais il y a des scènes de voiture. C'est pas une Mustang, c'est une Austin Cooper décapotable. Je vois pas bien ce que ça raconte. La noire qui joue la copine est formidable, mais en revanche, je trouve que l'héroïne, la beurette, joue
ou
comme
la
une patate.
Amamra.
Et tous ces gens
comme
qui...
Comme une patate, tu trouves?
Oui, oui, oui. Enfin, elle est un peu gênante. Et toutes les scènes sont un peu attendues, là, quand elle s'engueule avec la femme qui veut lui apprendre à travailler dans un bureau d'accueil. Tout ça est vu déjà mille fois. Sur la banlieue, je préfère La haine, dans le genre horripilant, mais où il y avait vraiment quelque chose, ou même Bande de filles que je n'aimais pas tellement. Mais là, je vois un film banal, comme il y en a des...
Tu viens de nous dire qu'après son discours, tu avais été plutôt étonnamment surpris par le film.
Ah bah oui, parce que...
Et maintenant, tu le descends.
Ben oui, mais le discours a été un grand moment de souffrance pour moi.
Oui, oui. Xavier.
Est-ce qu'on peut citer le nom de la comédienne que tu as appelée La Noire? Ce serait bien, Déborah Lukumuena. Non, mais c'est bien, elle avait un nom avant, un nom après.
Je ne me souviens jamais du nom des acteurs.
Bah oui, mais enfin bon.
Je compte sur toi pour les sous-titres.
Le film n'est pas sans défaut, mais moi j'ai envie de le soutenir, j'ai envie de le défendre, parce que j'ai envie de dire que quelque part, c'est ce qu'on attend d'un premier film. On en a vu beaucoup à Cannes, qui était très propre sur eux, très policier, qui voulait déjà rentrer dans le moule. Bah, je pense à un film suédois ou norvégien qui raconte l'histoire d'un boxeur qui va sortir bientôt, qui est vraiment la petite œuvre quand même propre sur elle. Au moins, il n'y a pas cette envie de plaire à tout le monde dans Divine. Elle veut rentrer dedans, c'est le premier film saturé d'énergie. On a l'impression qu'elle se dit, peut-être que je n'aurai jamais l'occasion d'en faire un deuxième, donc je vais y aller, je vais y foncer. Alors effectivement, de temps en temps, ça déborde du cadre, de temps en temps, ça un peu partout, mais flûte, elle a un point de vue, elle veut raconter ça du point de vue des femmes. Quand elle fait, t'as du clitoris, c'est pas simplement un
du clito
qui choque.
Non, dans le film,
c'est clitoris.
Quand on parle de chef-d'œuvre, voilà, faut citer.
C'est dans le discours.
mais c'est pas simplement pour faire un mot, c'est bien le principe du film, c'est que je vais renverser tous les codes du film habituellement très testostérone des films de banlieue. Et c'est pour ça que c'est un danseur.
Non, ce qu'il n'y avait pas dans Bande de filles, je trouve.
Non, mais Bande de filles, on est bien d'accord. Moi, j'adore le film de Céline Sciamma, mais c'est plus mesuré, c'est plus distancié, c'est plus intellectualisé à la manière de Céline, qui fait ça très très bien. Là, elle a voulu vraiment faire la haine au féminin. Et la bonne idée, c'est un personnage masculin qui est danseur. C'est-à-dire qu'elle a renversé tous les codes et elle a essayé de réfléchir. Et du coup, elle questionne vraiment la place de la femme dans les banlieues, sur le plan social, marital, religieux, sexuel. Elle y va. Il y a quand même une scène extraordinaire que je ne vais pas raconter, qui est un plan séquence onirique où les deux filles imagine dans un autre monde, un monde rêvé. Les deux gamines sont extraordinaires. C'est un plan séquence, donc elles tiennent leur texte jusqu'au bout. Il y a des moments de cinéma pur. Si c'est pas ce qu'on demande à un premier film, d'avoir un point de vue, d'avoir une envie, d'avoir une urgence, et de faire à chaque moment une scène de cinéma avec les dents, avec la rage, avec la volonté de dire quelque chose, ben moi je suis désolé, c'est exactement ce que j'attends. Le film n'est pas parfait, mais voilà, il répond à quelque chose chez moi qui est l'heure de ce cinéma rageur, vengeur et gourmand, et que j'adore.
Daniel.
Je renchéris sur ce que dit Xavier parce que c'est exactement ça. Il y a une telle énergie vitale, voilà, et c'est ce qu'on demande. Elle renverse les clichés du film de banlieue, entre Absolument. Guillemets. Elle a une sorte d'amour et de respect pour ses personnages. Ils veulent, bon, on lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle fait money, money, money. Mais l'argent, c'est pas pour l'argent. L'argent, c'est pour la dignité. C'est pour sortir de la merde. C'est pour sortir du camp de Rome où elle vit avec sa mère. Et je veux dire, on y va, on y est. Elle les aime, elle nous les montre, elle les défend. Voilà, elle défend ces personnages. Et ce couple de filles, cette amitié, cet amour entre ces deux filles, et le fait que la dealeuse en chef soit une fille, oui, c'est pas un cliché, c'est différent, voilà. Et c'est un premier film, mais comme, voilà, c'est pas une promesse, c'est déjà tenu. Elle dit elle-même, bon, je sais pas si j'en ferai un deuxième, je sais pas, mais si elle en fera un deuxième. Cette fille, elle a guts, comme l'autre a du clito, voilà.
Allez, Pierrot.
Non, mais je sais pas quoi dire. Enfin, j'ai rien contre.
T'es critique quand même.
Non, mais justement.
T'es très richement payé pour cette émission.
C'est ça qui me gêne, justement. C'est que des critiques aient donné la caméra d'or à un film comme ça.
Quoi?
Puisque, bah oui, ce film aurait été accueilli avec gentillesse et avec votre indulgence à Xavier et à toi, Daniel, en disant « C'est plein d'énergie, c'est l'enveu, et elle en veut faire un deuxième film. » Ok, elle a obtenu la caméra d'or, c'est-à-dire le meilleur premier film du Festival de Cannes.
Toutes sections confondues.
Alors, je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vu au moins deux, trois, qui étaient des films. C'est-à-dire que là, moi, je veux bien. Vous avez raison tous les deux. Les actrices sont formidables.
Mais pas du film, pas du fait qu'il ait reçu la caméra d'or.
Non, mais voilà, mais les actrices. Non, mais si, parce Est-ce que c'est ça? Mais si, pardon, excuse-moi, j'ai le droit aussi d'être contrarié qu'un film moyen qui n'est pas très cinéma reçoive une récompense aussi importante. Car la vraie vérité, c'est que tout ce que vous avez entendu là est vrai. Les actrices sont formidables. La mise en scène est généreuse et tout. Mais il n'y a pas de mise en scène. À part la plan séquence que Xavier a citée, où elle commence à rêver, il y a en effet un joli plan séquence, c'est tout. Il n'y a pas de scénario. Bande de filles qui n'étaient pas géniales étaient quand même 10 fois mieux que ça. Donc il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de très très grande comédienne, et tout le monde s'extasie parce que c'est de la banlieue et que ça tchatche.
On a le droit
parfaitement de le faire. Mais on a le droit aussi, au masque et la plume, de parler cinéma et de dire que cinématographiquement, c'est pas très fort.
Allez, on a encore plein de films à évoquer. C'est Divine, donc le premier film de Houda Benyamina. Des réactions sur ce film? Non. Il était aussi en compétition au Festival de Cannes. C'est Resté vertical d'Alain Giraudy, qui a rencontré le succès, je le rappelle, en 2013. Avec un polar gay, L'inconnu du lac, et qui nous emmène cette fois sur un cause de Lozère, où rôde des loups. C'est là que Léo, qui est un scénariste en panne d'inspiration, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est joué par Damien Bonnard, rencontre Marie, une bergère blonde, India Air, d'ailleurs comme par hasard, armée d'un fusil, qui a 2 enfants, et de cette union un peu improbable, va naître un bébé que Marie, en pleine dépression, abandonne. Léo, auquel le père de Marie, qui est un paysan un peu ronchon, n'est pas insensible, on voit qu'on est bien chez Giraudy, et qui va sombrer dans la misère, squatter des voisins avant de repartir chasser le loup. Entre-temps, on aura assisté frontalement à l'accouchement de Marie, bonjour l'origine du monde. On aura vu dans une scène qui est maintenant entrée, je crois, dans la légende, Léo sodomiser un vieux rocker à l'agonie.
Tu le dis.
C'est ça.
Ah ben tu le dis.
Pourquoi il faut pas le dire?
Ah ben je sais pas.
J'ai dit à l'agonie, j'ai pas dit qu'il était mort.
À cause de ça, il est à l'agonie.
On aura vu grossir la meute des loups sur le co, ça dure 1h40. Accueil dithyrambique pour ce film, Xavier.
Non mais j'adore parce qu'en 2016, le mot sodomie se passe sans problème, c'est agonie qui pose souci.
Oui, tu as remarqué.
Je trouve ça génial, non, j'adore être de cette époque-là.
C'est le lien entre les deux.
Finalement. Ben moi, vive Alain Giraudy, quoi, je sais pas dire. Quoi d'autre, c'est vraiment le cinéaste indispensable au cinéma français, qui n'est le trait d'union entre rien et rien, qui se suffit à lui-même, qui est d'une liberté absolue, qui est insolent et en même temps qui n'est jamais dans la fausse provocation, qui est d'une poésie absolue. C'est quelqu'un qui tisse depuis le début le même motif et il se réinvente à chaque fois. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des liens entre chaque film et en même temps chaque film est indépendant, chaque film se renouvelle complètement. C'est peut-être le plus social, là c'est vrai, pour une fois, parce qu'il y a la déchéance de ce personnage qui est sans doute miroir par rapport à lui. C'est un cinéaste qui a une forme de morale. Rester vertical, c'est aussi, on dirait une morale de La Fontaine.
C'est aussi quelque chose. C'est aussi physique.
D'un peu et bien sûr que c'est physique, voilà. Je trouve que... Alors, on parle de cette scène de la sodomie à l'agonie, et c'est peut-être le plus beau moment de cinéma que j'ai vu cette année. C'est très
particulier. Ça fait beaucoup.
C'est peut-être excessif.
Ben si, parce qu'en revoyant le film...
Qu'est-ce que ça va être, les années bissextiles?
En revoyant le film, je me suis aperçu que la scène aurait pu être glauque, que le moindre raccord à l'intérieur de la scène, on parle de...
Raccord.
Là, absolument.
C'est du raccord-raccord.
Raccord-raccord, oui.
C'est un plan absolument superbe, avec une utilisation de la musique, un jeu d'acteur Damien Bonnard, entre autres, est absolument bouleversant.
Il y a une grammaire de la sodomie, d'ailleurs.
Mais bien sûr qu'il y a une grammaire de la sodomie, bah, évidemment. Sinon, ça se passe mal. Enfin voilà, moi je trouve
que c'est bien au théâtre du Casino Barrière.
C'est un film qui me ravit, c'est un film qui me donne envie de... j'ai envie d'y aller, je suis désolé.
De mourir.
Non.
J'ai envie de mourir comme le personnage.
On a des jeunes auditeurs, tu sais.
Je suis désolé, mais...
On a compris que tu aimais. Hein.
C'est un film, voilà, c'est un film qui regarde la vie avec lucidité, avec amour, avec empathie, avec poésie. C'est, voilà, moi je suis désolé, Giraudy me bouleverse, Giraudy me séduit, Giraudy m'excite.
Et
c'est pour ça que j'aime son film.
Bonsoir, bah, Alain.
On va pas au cinéma pour autre chose.
Eric.
Non, mais là, tu exagères, Xavier. Tu sais
jamais.
Bien.
Jamais. Alors, c'est non. Pas mon genre.
Tu sais bien que c'est une grosse déception. C'est le moins bon film de Giraudy. C'est un film qui part dans tous les sens. Tu appelles ça de la poésie, de la liberté, mais c'est aussi de la paresse ou de l'incapacité. Il est un peu comme son héros. Le type est scénariste. Il est censé rendre un script. Alors, il a son producteur au bout du fil. Ah oui, je te le donne dans 3 semaines. Et quand le producteur rappelle, entre-temps, il a eu un enfant, le scénariste. Alors, il n'était pas si pressé que ça d'avoir le scénario, puisque c'est pas, ça ne dure pas 3 semaines, un enfantement. Ah et bon, on a droit à toute une série.
Parfois sur le cause de Lozère.
Si, bah, sans doute, ils ont peur des loups.
Bah, c'est très drôle quand le producteur kidnappe le héros pour lui faire rendre son scénario.
Il la rend. Ça, bah, je m'en suis pas remis. Non, mais je suis triste parce que L'inconnu du lac était une telle réussite, audacieuse, formellement, thématiquement. Et là, c'est vraiment un film marabout bout de ficelle qui est pas du tout maîtrisé, qui part à volo. Il y a quelques beaux paysages, il y a des loups, mais il y a des trucs absolument ratés. L'espèce de thérapeute New Age sous son tipi, mais c'est pas possible. L'accouchement en gros plan, ça choquait peut-être dans les années 60, mais aujourd'hui, on se croirait chez la boucherie Bernard. On est content que ça se termine.
Ce serait quoi la charge provocatrice d'une telle scène?
Mais ça sert à rien.
Tu as aimé la scène, toi, de la sodomie?
Je la trouve assez rigolote. Surtout, ça m'a prouvé qu'à mon âge, ce genre d'exercice peut être dangereux pour la santé. Surtout en écoutant Pink Floyd. Donc, j'ai cassé mes disques.
Il faut un peu de pratique, Eric Green.
Non, mais c'est un film très décevant avec des hauts et des bas, surtout des bas. et des ébats. Et je suis triste parce que j'aime beaucoup les films de Guiraudy.
Pierrot.
Ben moi, j'aime beaucoup ça. Mais moi, je reviens de loin parce que les premiers films de Guiraudy, qui ont été célébrés par la critique, dans ce plaisir qui bouge, enfin, le plaisir.
Bon. Rêve qui bouge.
Vieux rêve qui bouge, merci Daniel. Ça me paraissait moins un peu comme ça abstrait. Et je trouve que L'inconnu du lac, si j'ose dire, lui a fait beaucoup de bien à Guiraudy, parce que c'est un film plus classique, où il a appris à faire un scénario, à faire une mise en scène beaucoup plus élégante.
C'était réellement angoissant d'ailleurs, il y avait presque un suspense de polar.
Mais c'était un polar puisqu'il y avait un meurtre, un crime, un assassin. Enfin, et je trouve qu'on retrouve ce qu'il a appris dans L'inconnu du lac, dans ce film-là. Parce que contrairement à toi, je trouve pas que ça paille dans tous les sens. Au contraire, c'est un type qui rencontre une fille à qui il fait un enfant, qu'il abandonne, il devient père sans trop le vouloir, mais il y prend goût. Et à partir de là, il commence à affronter toutes les désillusions de la vie qui vont jusqu'à des clodos qui l'agressent et qui le... autrement dit, il y a une espèce d'absurde fil qui amène le personnage de là où il part, là où il arrive. Alors après, il y a plein de, comme toujours chez Guiraudy, plein de trucs en trop, ou pas en trop, mais en tout cas qui n'ont apparemment rien à voir. Mais je trouve qu'au contraire, depuis quelque temps, il a appris presque le classicisme. Alors le classicisme de la forme chez Guiraudy n'exclut pas une certaine fantaisie et une extravagance certaine. Mais je trouve que c'est un film très réussi, moi.
Daniel.
Bah oui, moi j'aime énormément. Bien sûr, L'inconnu du lac, c'est bacchanal, hédoniste et polar crépusculaire, c'était formidable. Et là, il continue son œuvre rurale et buissonnière et il arrive justement à allier beauté formelle et liberté sexuelle avec...
Je ne suis pas sûr, cela dit, que le monde rural se reconnaîtra totalement dans ce film.
Non, probablement pas. Ou alors, il ne voudra l'avouer jamais. Mais c'est très beau. C'est un chasseur de tabous. Voilà, il les renverse avec vaillance. Non, l'instinct maternel n'est pas obligatoire. Non, la charité n'est pas récompensée. Il se fait tabasser par les sans-abri à qui il a fait la charité. Ce sont des solitudes qui tout à coup se rencontrent. Le héros Léo, c'est le petit cousin du visiteur de Théorème de Pasolini. Et c'est jamais glauque et c'est jamais sordide et c'est très beau.
Restez vertical d'Alain Guiraudy. Maintenant, un film totalement inactuel, en tout cas très peu tendance, puisqu'il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de dealer, il n'y a pas de sodomie. C'est un film pas normal, qui s'appelle Le Fils de Jean, librement adapté d'un roman de Jean-Paul Dubois, nouveau film donc de Philippe Lioret, réalisateur de Welcome, de Je vais bien, ne t'en fais pas, de L'Équipier. Et c'est avec Pierre Deladonchamp, Gabriel Arcan, Catherine Deléant, et le film commence à Paris, où Mathieu, la trentaine, c'est donc Deladonchamp, reçoit un appel du Canada qui lui apprend que son père Jean, qu'il n'a jamais connu, vient de mourir. Mathieu décide donc d'aller à son enterrement, et à Montréal, où Jean avait donc refait sa vie, il se découvre un oncle bougon, assez malade, qui est Pierre, donc c'est Gabriel Arcan. Deux demi-frères, plutôt baraqués. Il apprend aussi que son père, dont le corps serait au fond d'un lac. D'ailleurs, c'est peut-être L'inconnu du lac, d'ailleurs.
Il s'inquiète d'ailleurs de la Deladonchamp à ce moment-là.
Que donc son père lui a légué un tableau de très grande valeur. Le mystère de Jean ne sera révélé qu'à la fin, à l'aéroport, lorsque Mathieu repart pour Paris, dont je demande à Pierrot de ne pas révéler l'épilogue de ce film, même si ça n'est pas un polar, plutôt un film, comment dire, d'atmosphère, où Gabriel Arcand, dans ce rôle à la fois mutique et douloureux, est assez extraordinaire, je trouve. Pierre.
Ah ben d'abord, Gabriel Arcand, c'est un très grand comédien de théâtre. On l'a vu récemment dans un film où il jouait une sorte de père Goriot québécois qui s'appelait le film de Sébastien Pilote, Le Démantèlement. Et là, il est absolument magique. Si on veut voir ce qu'a un grand comédien, les regards qu'il donne, les silences qu'il tait, le côté ronchon et bourru.
Avec un physique qui s'est maintenant creusé.
Oui, parce qu'on l'avait connu en biker sexy.
Et là, il est presque beckettien.
Il y a 40 ans. Il est formidable. Pierre Dola dans le champ est très bien. Oui. Mais évidemment, Gabriel Arcand est absolument sublime dans le film. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce film. Je trouve que c'est un film qui... Toujours comme ça avec Philippe Lioret, c'est fait sur la délicatesse, c'est-à-dire sur l'instant, sur la sensibilité, mais qui jamais ne vire, selon moi, à la sensiblerie. Mmh. C'est-à-dire que chaque plan dure exactement le temps qu'il faut. C'est un travail vraiment de dentelière, mais où chacun est sa place, chaque comédien joue sa partition, tout le monde est là, impeccable, et ça pourrait être totalement académique et ennuyeux.
Ce que certains critiques cette semaine
l'ont reproché, d'ailleurs. C'est absolument tout pour moi, sauf académique. C'est du grand, grand cinéma classique.
Classique, absolument.
Et c'est jamais ennuyeux.
Peut-être, petite réserve, c'est qu'évidemment, du point de vue romanesque, on comprend très vite qui est vraiment le personnage que joue Gabriel Arcand.
C'est toi qui...
Non, mais je dis rien de plus. C'est tout.
Non.
C'est le seul petit...
Et alors, quand on comprend ça, on a presque envie de revoir le film une deuxième fois, dans la mesure où on s'aperçoit à ce moment-là à quel point il y avait des signes de piste, des regards, des silences. Moi, je trouve que c'est un film tout à fait bien.
Éric.
Non, c'est un très joli film. Et quand je l'ai vu, moi, je ne savais pas que c'était tiré d'un livre de Jean-Paul Dubois.
Qui devient décidément le romancier qui inspire le plus les cinéastes français contemporains.
L'ambiance ressemble beaucoup à son dernier roman qui vient de sortir, La Succession. Là, il y a une mélancolie, une tristesse et en même temps une tendresse, quelque chose de presque comme du velours, quelque chose de chaud et de familial. Et c'est un film sur la famille. Il est très fort pour ça, Lioret. C'est le matériau le plus romanesque qui soit, que ce soit une famille connue, reconstituée ou ignorée. Et on voit la découverte de tout un passé que le héros ignorait, et pour cause, puisque sa mère lui avait dit que son père était une rencontre d'un soir. Et il déboule dans cette famille acadienne. Et Gabriel Arcand, moi je ne connaissais pas parce que je ne vais jamais au théâtre, est phénoménal comme acteur. Là, c'est vraiment un ours sympathique, granitique. Et Dola Donchamp est en train de se révéler un des meilleurs acteurs français. Il a une présence, une discrétion, qui est aussi la grande qualité du film.
Et les deux frères
les deux frères en train de se chamailler tout le temps, il se dit, j'ai peut-être la chance de ne pas avoir connu mon père.
Daniel.
Oui, Philippe Lioret, il est le cinéaste de la paternité. Tous ses films ont à voir avec ça. Même Welcome, où il y a un père de substitution. Enfin, et ça, il sait faire ça. Et ce que je trouve très, très beau dans ce film, c'est que c'est un thriller intime, parce qu'il y a un mystère et que le héros est complètement paumé. Et il va à la rencontre de cette famille qu'il ne connaît pas et il découvre des choses et on lui cache des choses. Et le rapport entre cette intimité, ce secret, cette douleur, cette mélancolie, les somptueux paysages du Canada, c'est cette espèce d'aspiration aux grands espaces et ce retour à l'intérieur le plus intime d'une famille, je trouve que c'est magnifiquement réussi.
Xavier, quelques mots sur ce film de Lioret.
Oui, vous avez tous dit effectivement toutes les qualités indéniables de ce film. Je pense que Lioret, c'est quelqu'un qui a une idée très noble et très juste du cinéma populaire, au point peut-être de disparaître derrière une mise en scène pourtant d'une précision, Pierre en a extrêmement bien parlé, qui sert le jeu des comédiens, qui sert le tempo et qui effectivement ne déborde jamais. Donc il a au moins la discrétion de ne pas se mettre en avant.
Il est dans la filiation de Sauter.
Mais de Sauter, absolument, voilà. Et après, moi, je pense qu'il y a deux lectures au film. Soit on s'aperçoit, on devine, entre guillemets, le secret et on s'en fout parce que du coup, on regarde autre chose, soit on est surpris à la fin et tant mieux, les deux procurent à mon avis le même plaisir et voilà, il y aurait un amour pour les comédiens et c'est les diriger ensemble en plus, ils ne les individualisent pas dans le cadre, il y a vraiment une synergie des jeux et des partitions magnifiques, voilà, le film a plutôt bien démarré cette semaine et j'en suis vraiment ravi parce qu'on a besoin aussi de ce cinéma-là qui s'adresse à un large public et qui pour autant ne se fout pas de sa gueule.
Et ça donne envie de lire James Cromley par-dessus.
Le fils de Jean de Philippe Lioret. Allez, quelques mots sur le film Un petit boulot qui est au sens propre le dernier film de Pascal Chaumeil, puisqu'il est mort l'été dernier, il avait 54 ans, juste après en avoir fini la post-production. Et c'est avec Michel Blanc, Alice Belaïdi, Gustave Kerven, Alex Lutz, Romain Duris, qui était le héros d'ailleurs de son premier film, qui a eu été un énorme succès, qui était l'Arnaqueur. Et ici, Duris, c'est Jacques, un garçon séparé de sa copine, chômeur, trop endetté pour ne pas accepter la proposition que lui fait un caïd de tuer sa femme parce qu'elle l'a trompé. Là, on est dans la logique. Il n'y a rien de... Hein,
bien entendu.
Tout est normal. Un caïd qui est joué par Michel Blanc, qui signe le scénario tiré d'un roman de l'Américain Ian Levinson. Jacques, hier briseur de couple, aujourd'hui tueur à gages, accepte aussitôt la proposition. Ça ne se passe pas à Monaco, comme dans l'Arnaqueur, mais dans une petite ville d'un nord, comment dire, franco-belge, touchée par la fermeture de l'usine locale. Comédie sociale, donc la dernière, 1h37, de Pascal Chaumeil. Xavier ?
Je devrais adorer ça, parce qu'il n'y a pas de morale, c'est un peu cynique. On y tue les sous-chefs, les petits sous-chefs comme ça, sans aucun scrupule, et moi je suis plutôt pour, hein, théoriquement bien sûr. Oui. Et je trouve que malheureusement, après une demi-heure de mise en place plutôt savoureuse, avec des dialogues, des situations et un peu de mise en scène, et ben le film malheureusement ne transforme pas l'essai. La fin est toujours un peu répétitive, alors les morts se succèdent, les bons mots de Michel Blanc, qui est formidable dans le film, se succèdent, l'air ahuri de Romain Duris qui s'improvise tueur à gages, mais qui visiblement fera pas le bon feu dans le métier, ben on a compris, et le film s'épuise, on attend la fin, et on a l'impression que personne n'y croit, et que même le scénario, même la mise en scène, ne sait pas très très bien où finir, à quel moment terminer cette histoire-là, et on s'en désintéresse autant que quoi.
Pierrot.
Bah oui, c'est surtout pour Michel Blanc, parce que ses dialogues sont vraiment très 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 brillants, son scénario est bien. Romain Duris est bien. Moi j'avais beaucoup aimé le premier film de Pascal Chaumeil, L'Arnaqueur, j'avais marché
bien.
Ah ouais,
ça fonctionnait très bien.
Là, au bout de, comme dit Xavier, au bout de 25 minutes, ça
part. C'est un peu ce qu'on appelle une fausse bonne idée, quoi.
Et ça repose que sur une idée, et qui au bout d'une demi-heure, eh ben, on a beau rajouter des cadavres, ça marche plus.
Daniel.
Oui, voilà, c'est pas parce que Pascal Chaumeil est parti prématurément, mais c'est exactement un film que j'aurais aimé davantage. Voilà, on a une sorte de sympathie. On n'a jamais vu un si adorable tueur à gages. Enfin, voilà. En plus, il se fait tout le temps avoir, quoi. C'est vraiment trop mignon, tueur à gages. Alors, effectivement, on est assez content parce qu'il y a une jolie amoralité dans tout ça, mais
C'est même pas vraiment amoral.
Mais non, pas assez.
Pas assez. C'est pas
ça cynique. Ose pas y aller.
Ouais. Ça manque totalement de cynisme. Et Michel Blanc, en effet, il a écrit des dialogues assez brillants, mais je trouve pas qu'il soit extraordinaire, il se regarde être dans le film qu'il a écrit. Hein, c'est pas mal ça. Vous avez entendu cette réplique? Pas mal, hein? Ouais.
Bon. C'est pas faux.
Eric.
Bah, quand on y est, il n'y a aucune raison de partir, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune raison d'y aller. Alors, c'est.
C'est pire que nous.
Mais non, mais c'est. C'est un film complètement bancal, qui ne sait pas sur quel pied danser, qui hésite entre le réalisme et puis la fantaisie, le cynisme à la Blier ou à la Tarantino, et ça ne marche jamais. Du coup, on n'y croit pas, on n'a plus envie d'y croire. Michel Blanc sauve les meubles avec son rôle et ses dialogues. Peut-être qu'il aurait dû le réaliser lui-même, je ne sais pas.
Mais je crois qu'il y a pensé. Hein.
Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et ça se veut à la fois, c'est pas moral, mais c'est moralisateur sur le monde du travail, la dureté des entreprises. Et bon, bah, c'est dommage, parce qu'on n'aime pas dire du mal des gens qui ne sont plus là. Mais...
C'est pour ça qu'on n'ira pas au-delà. Un petit boulot, Pascal Chaumeil avec Michel Blanc. Vous le savez, on est, je le rappelle, au 42e festival américain de Deauville, dans le très joli théâtre du Casino Barrière. Donc j'ai inscrit pour finir deux films américains qui ne sont pas présentés ici au festival, mais qui sont sortis cette semaine. Le premier, qui est un objet étrange, qui s'appelle First Date, le premier film de Richard Ten sur la rencontre à Chicago au cours de l'été caniculaire de 89 entre Barack Obama, qui est joué par Parker Sawyers. On se croirait au musée Grévin. Enfin, c'est vraiment copie conforme. Et sa future épouse, Michelle Robinson, qui est jouée par Tika Sumter, qui travaillent tous les deux dans un cabinet d'avocats, une pure comédie romantique, où d'ailleurs à la question posée par Michel, êtes-vous tenté par la politique ? Barack répond peut-être. On est, je le rappelle, à 2 mois de l'élection américaine, cette hagiographie du président démocrate, je crois, ne pourrait pas tellement avoir d'équivalent en France. J'ai du mal à imaginer la même chose.
Avec Hollande et Trevilleur en une journée.
Xavier.
Oui, c'est un étrange objet totalement inutile, tant sur le plan historique que sur le plan politique que sur le plan cinématographique. Faut dire un petit peu les choses telles qu'elles sont. Qui commence comme un film de John Hughes dans les années 80, Barack Obama, qui écoute de la musique hyper cool au volant de sa vieille voiture défoncée. Il y a même un trou, si mes souvenirs sont bons, dans la voiture. Ouais. Et puis le générique en rose bonbon, comme Breakfast Club et tout. C'est super cool. Il va chercher Michel. Michel, elle le prend un tout petit peu de haut.
Elle est rugueuse.
Elle est rugueuse, hein. Non, puis elle sait que, Elle est sa patronne. Lui, il est stagiaire, elle est avocate. Et puis moi, le côté les blacks avec les blacks et brother, non, c'est pas mon truc, excuse-moi. Mais ça tombe bien parce que Barack, lui, il a de la conscience noire, alors que elle, Michel, elle l'a pas. Donc, ils vont passer la journée ensemble. Et alors, ils ont de la chance parce que sur leur parcours, il y a toujours une espèce de petite mémoire noire qui traîne. Un petit peu de musique au musée. Il y a le mur du tunnel des martyrs. Et puis, à un moment, on va aller dans une réunion où Black Power, faut pas nous oublier. Et on va terminer en regardant. Ça, c'est vrai parce qu'ils l'ont vraiment vu le jour de leur rencontre. Comme quoi, ils avaient rien à foutre ensemble, Do the Right Thing de Spike Lee. Donc voilà, ils vont au cinéma.
Qui est le seul vraiment bon film de Spike Lee.
Oui, en plus, le seul bon film de Spike Lee. Alors, c'est pas désagréable, mais on sent que derrière, effectivement, bah, il faut rappeler que Michel, elle est structurée, elle est rigoureuse, elle est ambitieuse.
Elle est grande.
Voilà, elle est grande. Donc, du coup, on a compris que la carrière de Barack, c'est lui, il lui doit. Mais en même temps, bah, heureusement que Barack était là pour lui rappeler sa couleur de peau, quand même, son implication. C'est pas la même chose d'être noir que d'être blanc aux États-Unis. Donc les deux étaient faits pour se rencontrer. Et voilà, et les étincelles, c'est que Barack est arrivé, comme on le sait tous, à la présidence. Mais on s'en cogne. Alors, c'est quand même terrible, quoi.
C'est nul.
Pierre.
C'est au-delà de ça. C'est irregardable. C'est nul. Si vraiment les vrais Michel et Barack Obama ont vécu une journée pareille, en toute logique, ils auraient dû se séparer le soir et se dire adieu à jamais, ne jamais se revoir. C'est une catastrophe ce qui leur arrive. Mais c'est d'une niaiserie, d'un ennui. Ils sont pédants tous les deux. Ils font des discours doctes.
Oui, c'est vrai qu'ils sont chiants.
Oh, ils sont chiants.
On préférait qu'ils dans une chambre s'envoyer en l'air. Hein,
oh là 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 là, c'était épouvantable.
Daniel.
Alors, c'est incroyable. Voilà. Comme elle est sa directrice de stage, elle dit mon petit stagiaire a de l'avenir. Bien vu. Et puis, oh, elle commet une grosse erreur. Lui commet une grosse erreur. Il lui offre pour le pique-nique une part de tourte. Et elle dit ah non, moi, j'aime pas les tourtes. Aïe, 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 ça va mal. Non, je préfère la glace au chocolat. Ah ah. Et donc, vers la fin, nous avons la séquence glace au chocolat. Torride.
Bah oui.
Torride. Alors.
Il y a un sens caché.
Ah, quand même. Enfin, c'est très symbolique. Je ne fais pas un dessin. Et donc, elle lèche sa glace. Et il l'embrasse. Et il dit, mon baiser a un goût de chocolat. Mais la chute que j'ai vue, quand même, parce que je me suis renseignée, est quand même hallucinante. Depuis cette séquence-là, qui est véridique, messieurs, dames, il y a sur le glacier de Chicago, Baskin and Robbins, une plaque commémorative. Ici a eu lieu le baiser au goût de chocolat de Barack Obama. Voilà, c'est extraordinaire, extraordinaire.
Bon, on aimerait mieux voir le film racontant la journée de Monica Lewinsky avec Clinton. Je suis sûr que le marchand de cigares a mis sur sa vitrine. Non, c'est un film inutile et voilà. Pas méchant, mais c'est vraiment rigolo, là, tout ce qui leur arrive. Non, surtout qu'elle, elle est associée dans le cabinet d'avocat. Elle lui dit, attention, aujourd'hui, c'est une journée boulot. Et lui, on voit bien qu'il a une idée derrière la tête, le petit salopio. Hein. Il l'emmène écouter, je sais plus quoi d'ailleurs, du jazz sans doute. Et ils sont pas d'accord sur Stevie Wonder. Alors là, c'est le drame. Mais non, le film est anodin.
Bon, allez, First Date. Donc, anodin. Ce premier film que vous allez courir voir de Richard Ten sur les Obama. J'avais inscrit aussi Mécanique Résurrection de Dennis Gansel, qui est la suite du Flingueur de Simon West, avec toujours Jason Statham et avec même Tommy Lee Jones. On n'a pas le temps vraiment d'entrer dans le détail. En quelques mots, est-ce que vous le conseillez, Xavier ?
Oh ben non, faut regarder quand même. C'est-à-dire, je suis désolé, c'est absolument ridicule. Ça démarre au bout de trois quarts d'heure, parce que pendant une demi-heure, il est sur la plage avec Michel Yeo et Jessica Alba. Il ne se passe strictement rien. Et puis après, on a trois scènes de meurtre qui sont plutôt rigolotes, mais pas du tout mises en scène. Voilà, ça. Et ça n'a strictement aucun intérêt, quoi.
Mais c'est surtout une caméra.
Daniel,
mot. Moi, j'ai passé mon temps à regarder ce film en disant qui peut y prendre du plaisir. Alors, il paraît que Jason Statham a été un grand plongeur, un sportif. Alors, il plonge d'un gratte-ciel, il plonge d'un hélicoptère. il plonge, il a un beau torse, hein, il a un beau torse. Ah, le torse, oui.
Eric, pas vu, Pierre.
Non, mais c'est juste la mise en scène, c'est-à-dire que c'est la mise
là,
en scène.
Là, quoi?
Oui, enfin, la mise en scène, ce qui se veut être la mise en scène.
C'est-à-dire la grammaire, tu veux dire?
La grammaire.
La grammaire
ne fait que bouger. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan, c'est-à-dire que la grammaire bouge tout le temps, mais il n'y a pas un plan qui dépasse 3-4 secondes, quoi. C'est, ça bouge tout le temps, n'importe comment. C'est une épouvante. Mais Jason est très bien.
Ah oui, il a une expression, contrariée.
Oui,
c'est tout.
Oui.
Mécanique.
Quand on a un torse comme le sien, une seule expression suffit.
Mécanique.
On se calme.
Résurrection de Denis Gansel. On a tout à fait le temps maintenant de passer à des conseils de la semaine. Alors vous avez le choix entre des films français, des films américains, si vous voulez être dans la tonalité de Deauville. Et on va commencer avec Daniel.
Alors moi, c'est une somme DVD absolument extraordinaire. C'est l'intégrale des documentaires de Frédéric Wiseman, qui est quand même le plus grand documentariste du monde, avec un procédé toujours le même, c'est-à-dire une immersion totale qui va d'une salle de boxe à un hôpital psychiatrique.
En passant par la Comédie Française.
En passant par la Comédie Française ou l'Opéra de Paris. Et il y a trois volumes. Le premier volume, 13 disques, 13 DVD et Blu-ray, est en cours de réimpression parce que ça a très très bien marché. Le deuxième est disponible. Le troisième va sortir à l'automne. C'est chez Blackout. Et vraiment, c'est une somme.
Et il y a dedans magnifique. Le dernier film qui était passionnant sur... sur New York, ce quartier.
Central Park. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est absolument extraordinaire. C'est une immersion inouïe. Jamais de commentaires. Et on est au cœur de ce qu'il voit, de ce qu'il nous montre. Et c'est splendide.
Donc, l'intégrale Wiseman.
Voilà, chez Blackout.
Chez Blackout. Le conseil de Xavier.
Sorti en salle cette semaine, Olmo et la mouette, d'un tandem de femmes, Petra Costa et Léa Glob.
Tu l'as choisi à cause des mouettes de Deauville ou
mais
non?
Peut-être, mais j'aurais pu. C'est une fausse auto-fiction plutôt intéressante et plutôt maligne. C'est l'histoire d'un couple, un garçon et une femme, qui sont tous les deux comédiens. Ils travaillent régulièrement ensemble sur les planches. Elle a une petite quarantaine d'années. Elle tombe enceinte. Et elle est partagée entre le bonheur de cette grossesse inopinée et en même temps le fait de se dire je vais pas travailler pendant 9 mois. Et elle voit tous ses copains, son mari répéter des rôles alors que sa vraie vie c'est sur les scènes. Et de temps en temps, les réalisatrices interrompent le film, questionnent la demoiselle sur justement son métier, son envie. Et c'est vraiment un exercice assez particulier entre la fiction et le documentaire et qui dit des choses très justes sur comment être comédienne, comment être mère, comment être une femme, sans aucune forme de théorisation, de façon très sensible, très délicate. Donc voilà, petit coup de cœur pour Olmo et la mouette de Petra Costa et Léa Glob.
Mon conseil, c'est le dictionnaire de ma vie. C'est aux éditions Kéro, du plus Deauville. Des Deauvillais, j'ai nommé Claude Lelouch, qui consacre une très longue entrée à Deauville, de plusieurs pages, dont il dit que c'est sa pharmacie, son fournisseur d'énergie, enfin. Et il écrit même, ça j'ai adoré, mais très sérieusement, qu'on lui doit finalement la création de ce festival américain de Deauville, parce qu'on a expliqué à l'époque aux Américains que sur cette plage avait été tourné un homme et une femme, et ça les a aussitôt, les Américains, évidemment, beaucoup rassurés. C'est comme ça qu'est né le festival de Deauville. Sacré Lelouch, on ne le changera pas. Eric.
Un DVD qui s'appelle La Panthère Noire, un film de Yann Merrick, un petit film anglais qui n'est jamais sorti pendant des années dans son pays, des années 60, et qui raconte l'histoire d'un serial killer qui a vraiment existé. Et c'est un film qui vous crée un malaise terrible, un peu comme les tueurs de la lune de miel. On voit ce petit bonhomme étriqué qui dévalise des postes et qui tue des gens dès qu'il y a le moindre problème, et qui vit comme un tout petit bonhomme minable avec sa fille et sa femme. Et c'est un film vraiment terrifiant et qui laisse un souvenir complètement hanté après.
Pierre.
Alors, à partir de mercredi prochain, un film américain, mais qui date pas d'hier, puis qui date de 1960, qui s'appelle Propriété privée, de Leslie Stevens. Alors, c'est l'histoire de deux jeunes gens qui suivent une belle blonde dans une décapotable et qui arrivent à la suivre et qui s'installent en face de la maison où elle habite et qui commencent à la surveiller. Et donc, c'est un film sur le voyeurisme qui rappelle un peu Hitchcock. D'ailleurs, Hitchcock est cité par un des personnages à un moment donné. Et surtout, on se dit que Michael Haneke a certainement vu le film quand il préparait son Funny Games.
Tous ces conseils, vous les retrouvez évidemment sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Daniel Eman, Xavier Leherpeur, Eric Neuf et Pierre Murat pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam, ce soir à la technique dans le théâtre du Casino Barrière. À Deauville, il y avait Étienne Leroy, Éric Audra, Alexandre James, Benoît Jégou, Raja Boudni. La réalisation était signée Didier Lagarde. Et vous notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, ce sera vendredi prochain, 9 septembre. Je vous attends très nombreux à 20h à l'Opéra National de Lorraine à Nancy à l'occasion de la 38e édition du Livre sur la Place pour deux émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. On parlera donc de littérature à Nancy la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.